J'ai vu qu'il commençait ciné-ado.
Oui.
C'est chouette.
Oui.
T'as toujours des surprises dans cette édition, c'est toujours un plaisir.
Je sais pas si on s'entend.
C'est là, oui.
Moi j'ai bon là.
Oui, oui.
Et toi, Muriel?
Oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vous ai.
We are going to see.
Let's go see.
So? Bonjour, vous commencez à reconnaître le nouveau générique de Zoom & Co, hein, cette émission cinéma bimensuelle de Mio, avec évidemment le générique qui est fait par Clara, qu'on salue aujourd'hui, puisqu'elle assure la production de cette émission. Donc une émission animée par Mireille, par Muriel.
Si tu veux, Mireille, pourquoi pas.
Pourquoi, je ne sais pas comment dire, bon. De plus, bon, par Muriel, allez.
Bon, bonjour à tous. Donc, je suis la directrice du cinéma.
Bon, je parle au nom d'Annick, c'est ça qui m'a un petit peu troublé. Annick qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui reviendra dans les prochaines sessions. Mais avec un invité surprise, Pierre-Emmanuel.
Quelle surprise, bonjour à tous. Pierre-Emmanuel Paret, président d'Aveyron Cinéma, bureau d'accueil de tournage sur le département.
Bon, et puis Didier, mais ça vous connaissez, le producteur de cette
qu'on
émission.
On ne le présente plus.
C'est ça.
Ouais, peut-être, oui. Bon, donc Pierre-Emmanuel qui va nous parler de Milos Forman, parce que je crois que Muriel, tu nous as préparé une surprise.
Ah oui, avec la ressortie pour ses 50 ans de vol au-dessus d'un nid de coucou, de l'excellent vol au-dessus d'un nid de coucou. Qui sera là donc au cinéma le 5 avril et le 7 avril.
On risque d'avoir un dimanche, hein, c'est ça?
C'est un dimanche soir à 20h30.
Animé, bon, un superbe film.
Hein. Oui.
Bon, un superbe film et un excellent metteur en scène. Je ne sais pas par quoi on commence.
Et un acteur incroyable aussi, je crois.
Quand même une actrice. Même,
et voire même une superbe actrice.
Qui a peut-être pas fait la carrière qu'elle aurait dû avoir. Mm. Alors on commence par quoi?
Allez, on commence par le cinéaste, en précisant qu'il s'agit du deuxième film américain de Milos Forman. Milos Forman, avant d'être l'auteur de films assez amples tournés aux États-Unis, c'est d'abord un représentant de la jeune vague du cinéma tchèque dans les années 60. Il y a à l'époque trois grands cinéastes tchèques à peu près. Vera Chytilová, avec notamment Les Petites Marguerites, Jiří Menzel, qui réalise Train étroitement surveillé, et Milos Forman, dont les trois premiers films sont particulièrement remarqués, L'As de pique, Les Amours d'une blonde et Au feu les pompiers. C'est un de ses meilleurs films, Au feu les pompiers, indéniablement. Et c'est un cinéma qui épouse toute la modernité des années 60, dans la continuité de la nouvelle vague française. Cinéma qui va être un peu mis à mal après la répression du printemps de Prague, qui oblige Milos Forman à s'exiler aux États-Unis, où il va s'installer durablement. Quand il arrive aux États-Unis, il se voit proposer la réalisation d'un film qui sera « Taking Off », Taking Off, qui est un film sur les parents de la génération hippie. Et il se trouve que quand il arrive aux États-Unis, il passe d'une certaine manière du contexte du jeune cinéma tchèque à celui du nouvel Hollywood, c'est-à-dire à l'émergence de jeunes cinéastes indépendants dans la continuité de Easy Rider,
la grande période,
le film de Dennis Hopper, qui a révélé notamment un acteur qui n'est autre que Jack Nicholson. Voilà. Et il se trouve qu'à l'époque des Amours d'une blonde, son deuxième film, un acteur américain, Kirk Douglas, qui venait de jouer au théâtre Vol au-dessus d'un nid de coucou, avait repéré le film de Forman et avait souhaité lui confier l'adaptation de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce qui nous met dans les années, au milieu des années 60 à peu près.
C'est un roman, hein.
Voilà, un roman de Ken Kesey. Et Douglas dit à Forman, qui était encore en Tchécoslovaquie, « Je vous envoie un livre pour un projet d'adaptation. » Forman est aux anges, sauf qu'il ne reçoit jamais le livre.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein.
Pour la simple raison qu'il a été intercepté à la frontière par...
police politique.
Exactement. Voilà. Et c'est ainsi que Forman se verra proposer l'adaptation de Vol au-dessus d'un nid de coucou quelques années plus tard par un producteur qui n'est autre que Michael Douglas, le fils de Kirk Douglas.
Wow. Voilà. Quelle aventure, quelle aventure. Et alors ce film, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire?
On l'a tous vu, mais peut-être pas sur grand écran.
À des âges différents.
Voilà, hein. Déjà.
C'est un film de 75, hein, c'est bien
ouais.
Ça. Hein.
Ouais. 76. C'est justement pour ça qu'on fête ses 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que déjà, il a eu 5 Oscars. Donc, meilleur réalisateur, meilleur comédien, meilleure comédienne, meilleur film et meilleur scénario. Donc, c'est pas rien, déjà. On peut dire que c'est une fabuleuse ode à la liberté. On peut en dire aussi que ça a été tourné dans un véritable hôpital psychiatrique avec un directeur de l'hôpital qui était très ouvert et qui a accepté à condition que les patients, les malades, participent au film. Donc ils ont fait de la figuration, mais pas que. Parce qu'ils ont aidé aussi parfois à la technique.
Il y a des anecdotes savoureuses.
Tout à fait.
Je crois. Bon.
Tout à fait, effectivement. Parce que la condition était que finalement, l'équipe technique, l'équipe du film ne sache pas pourquoi les gens étaient là. Et donc, il y avait ce qu'ils racontent, par exemple, un obsédé sexuel qui balayait gentiment devant les loges des femmes. Ou il y avait un pyromane qui a aidé l'éclairagiste. Enfin, il y a eu des petites choses un peu comme ça. Mais du coup, ils ont participé au film et ils ont et ça a été une expérience absolument incroyable. Donc c'est assez, moi je trouve que cette histoire est assez belle.
Et tu crois qu'on peut dire que l'histoire de la psychiatrie a été différente après ce film?
Je sais pas, mais peut-être que ça
a ouvert les yeux.
En tout cas, oui, peut-être. Mais en tout cas, on avait déjà là un directeur qui avait une vision différente de ce qui est dans ce film, justement. Et sur l'actrice aussi, je trouve, il y a une anecdote. Sur Louise Fletcher, il y a une anecdote qui est assez intéressante parce que autant Milos Forman dit qu'il a su que ça allait être elle et tout ça, en fait, il a mis 6 mois. 6 mois avant de l'accepter, il trouvait qu'elle était trop douce. Et en fait, c'est ce qui va faire la force de ce personnage. C'est qu'effectivement, c'est une femme avec un visage d'ange, c'est une femme très douce, et qui du coup, et qui croit là fortement à ce qu'elle fait et au fait qu'elle leur fait du bien. Et donc, faire des choses assez terribles par des personnages comme ça tout en douceur, c'est encore plus...
ce rôle-là, ça aussi, c'était, ça l'a lancé, ça a confirmé tout son talent après Easy Rider.
Ça a confirmé son talent. Il a effectivement explosé dans Easy Rider avec un second rôle, hein, cela dit, mais qu'il a mis vraiment en évidence. Il a ensuite fait des films où il était dans un registre plus paisible, notamment 5 pièces faciles, où il a montré toutes les nuances de son jeu. Effectivement, Vol au-dessus d'un nid de coucou joue plutôt sur la corde exubérante du personnage.
Avec Kubrick, peut-être.
On reverra exacerbé encore avec Kubrick dans Shining, oui, complètement.
Voilà, on sent d'ailleurs déjà dans son regard, il y a déjà cette bascule là vers la folie qui l'interprète très bien, le regard de Shining.
Ouais.
Le regard de Shining qui est déjà un peu là.
Mais alors, il y a Antonioni qui l'avait un peu calmé. Hein, dans Profession
Reporter, complètement. Il est effectivement au diapason d'un film extrêmement tranquille, extrêmement, presque un film à voix basse, entre guillemets.
Ouais, et... Très beau film.
Ouais, ouais.
Enfin, en tout cas, moi j'ai hâte de revoir ce film au cinéma, un grand écran. Hein, il a fait d'autres films, hein, d'ailleurs. Hein. Je parle du metteur en scène, hein, parce que c'est quand même un grand metteur en scène.
Forman, par la suite, oui, a fait notamment R, comédie musicale. Alors, il a tourné en 79, donc c'est
ensoleillé,
à une époque où...
Ensoleillé,
on peut le dire comme ça.
Amadeus.
Amadeus, bien sûr. Ouais. Voilà. Ragtime aussi, entre-temps.
Ouais.
Des films, comme je le disais, assez amples, hein, des productions assez ambitieuses, la plupart du temps. Il en a fait un également que je regrette de n'avoir toujours pas vu, qui est Man on the Moon, et qui paraît-il est remarquable.
Ouais,
un de ses derniers.
Un de ses derniers. Puis il a fait Valmont.
Oui,
aussi. Il a adapté la littérature.
Et en fait, ce
française.
Qui est intéressant, c'est bien, enfin, aller de Valmont, tout ça, c'est que finalement, alors là, Jack Nicholson, bon, c'est le héros, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film.
Mac Murphy.
Mmh. Mais en fait, c'est pas forcément des personnages sympathiques. Enfin. Mac Murphy, il est là parce que c'est un délinquant sexuel. Amadeus, bon, il est trouble. Valmont, voilà.
Valmont,
ça là, on arrive au sommet du pas sympathique.
Il a choisi le titre parce qu'il aurait pu choisir un autre titre sur l'adaptation de
c'est
ce
vrai,
roman.
Exactement.
Il a choisi Valmont.
Donc, c'est à la fois des personnages où il y a une ambiguïté quand même. On est touché par eux, mais il y a une petite ambiguïté. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Et j'allais oublier de vous parler de Ken Kesey. Non, parce qu'effectivement, c'est un film tiré d'un livre d'un auteur américain qui s'appelle Ken Kesey, qui s'est inspiré, lui, pour écrire Vol au-dessus d'un nid de coucou, de son expérience, et oui, d'aide-soignant en psychiatrie. Où, en fait, il était aussi et il faisait... il a fait partie d'un programme un peu d'histoire de cobaye où il faisait faire, je n'ai pas très bien compris, par la CIA sur les patients des tests...
Des essais thérapeutiques.
Pour le LSD.
Ah, le LSD.
Voilà. Et donc, c'est à partir de cette expérience-là qu'il a écrit ce livre, Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est quand même intéressant à savoir. Et c'était juste pour vous. Alors là, un conseil de livre, ça change d'un conseil de film.
Ben non, mais...
Voilà, de lire un livre qui est absolument remarquable de cet auteur et qui s'appelle « Et quelquefois, j'ai comme une grande idée ».
Ah oui, puis alors le titre est fantastique.
Le titre est fantastique. Ah oui.
Et alors, vous voyez, c'est drôle que vous me fassiez penser à ça, parce que j'ai eu du mal à trouver une musique pour notre émission. Si j'avais su, je l'aurais trouvé. Parce qu'il y a un des guitaristes du Grateful Dead, qui s'appelait Bob Weir, qui vient de mourir. Et ce monsieur, quand il avait 16 ans, il a parcouru les États-Unis en car, avec un des chercheurs qui pensaient que le LSD avait encore des vertus thérapeutiques. Donc c'était avant de découvrir tout ce que ça pouvait produire. Et alors un peu, en fait, il a vécu un peu comme Drunk dans le film où chacun cherche la dose maximum d'alcool. Ben là, il cherchait la dose maximum de LSD pour être plus intelligent, meilleur, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, vraiment intéressant. On écoute un peu Jack Nicholson, si vous le voulez bien.
On le veut bien.
Histoire de donner envie à tous ceux qui nous écoutent de venir voir le film. Hein, on va passer la bande-annonce, alors en anglais. Mais je pense qu'il faut vraiment, il faut l'écouter, une petite minute.
You said you've been belligerent, been resentful in attitude toward work in general, that you're lazy.
Vacation time.
Well, the real reason that you've been sent over here is because they wanted you to be evaluated. To determine whether or not you're mentally ill. They think you've been faking it.
Mr. McMurphy. The meeting is adjourned.
Mac?
The chief! Look, he voted.
Will you please turn the television set on?
Your hand is staining my window.
I want that television set turned on right now! Here comes the throw, which is around the first. He goes in the second. He's in there, he's safe! It's enough!
you think there's anything wrong with your mind, really?
Okay. Not a thing, Doc. I'm a goddamn marvel of modern science.
Hey, what the hell's going on here?
Alors Pierre Emmanuel, je crois que tu avais envie de
rajouter...
Oui,
non, simplement préciser que c'est un film qui est très lié à son époque. Et un des thèmes très forts de Vol au-dessus d'un nid de coucou, au-delà même de la psychiatrie, c'est l'enfermement. Et c'est l'époque où Michel Foucault, par exemple, publie Surveiller et punir. Michel Foucault, qui est l'auteur d'Histoire de la folie à l'âge classique, quelques années auparavant. Et en fait, c'est ce thème-là de l'enfermement qui, je pense, a fortement retenu l'attention et fait que le film est ancré dans son époque. Alors, à ce moment-là, les critiques ont beaucoup considéré que l'hôpital psychiatrique pouvait être une vision du bloc de l'Est. Ça, c'était en tout cas la vision occidentale. Je crois que c'est une vision qui est un peu passée aujourd'hui, d'ailleurs, maintenant. Je pense qu'on est davantage dans la notion d'enfermement, de contrôle des esprits,
de contrôle,
quand on voit,
quand on voit
le film aujourd'hui.
Michel Foucault, qui a recherché toutes les formes d'enfermement, d'ailleurs, qu'on trouvait
et d'aliénation,
au travers de l'architecture panoptique, enfin, c'est tout ça. Exactement. Il a fait un très très beau livre. Bon, ben, je pense qu'on a donné envie, j'espère, d'aller voir ce film. Et puis bon, c'est aussi une façon de penser à tous ceux qui aujourd'hui luttent pour la psychiatrie dans nos territoires, hein, parce que c'est un sujet qui reste encore à traiter. Alors, ça n'a rien à voir avec le film, mais en tout cas, je pense qu'on pense à eux, et puis j'espère que beaucoup de ceux qui sont directement concernés, les professionnels, viendront voir le film. Bon, il y aura d'autres films, hein. Muriel, hein, je pense que où on passe pendant 15 jours.
Pendant 15 jours. Non, bien sûr. J'ai trois moments un petit peu plus forts à vous mentionner. Donc, alors c'est ce soir. C'est mercredi, ouais. Mercredi.
C'est la première.
On est combien ? 25, mercredi 25. On projette un film avec la fondation Le Refuge, qui est une fondation qui lutte pour les droits LGBT. Et alors là, c'est pareil, rien que le titre du film, j'avoue, c'est un documentaire. Ça s'appelle Pédale Rurale. Et donc, c'est un film joyeux, haut en couleur, tout comme son personnage. On va suivre Benoît. Il vit en Dordogne et il vit pas très loin du village où il a grandi. Et il reste là dans un univers très, très proche de la nature. Il cultive son jardin, il a plein de couleurs autour de lui. Et en fait, il pense un petit peu ses blessures et tout ce qu'il a subi dans l'enfance, dans ce village précisément. Avec plusieurs autres personnes queer qui sont dans le coin, ils vont décider de faire une gay pride en ruralité. Donc vous avez deux parties, une partie un peu plus introspective, première partie, et la deuxième partie qui est plus engagée, plus militante. Mais c'est assez beau, c'est joyeux, et je vous invite vivement à découvrir ce documentaire qui est assez étonnant, et puis c'est presque des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, peut-être dans les films de Guy Roddy, je pense. Voilà.
On a l'impression que ça pourrait être tourné par lui, je sais
pas. C'est documenté. Hein. C'est un documentaire, donc ce Benoît existe réellement, et donc c'est vraiment magnifique. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce documentaire. On change totalement de registre et le samedi 28 à 20h, nous allons accueillir un réalisateur qui s'appelle Thomas Borneau, et pour un film qui s'appelle Welcome to Europe et qui là est soutenu par la région et par la Ligue des droits de l'homme. Et c'est également un documentaire. Donc, on y suit là Cyril, qui est un petit-fils de réfugié politique espagnol et qui va s'engager en souvenir de son grand-père auprès des exilés. Donc, il entame un périple de Paris aux frontières de l'Europe pour y rencontrer tous ceux qui ont quitté leur pays, leur famille, pour diverses raisons. Il va se lier d'amitié avec un jeune Afghan, arrivé à Paris en 2022, et voilà, c'est un film qui va croiser à la fois tous les récits des exilés et une analyse politique et scientifique pour un peu démonter tous les clichés qu'on peut avoir sur l'immigration, les clichés xénophobes, et voilà, pour un peu démasquer tout ce qui se cache derrière cette fiction de l'immigration. Et c'est un documentaire lumineux contre la haine et les clichés. C'est un documentaire assez classique, mais voilà, qui peut être un outil très intéressant.
Sur un sujet, bon...
Voilà.
Il reste encore plus d'actualité, il me semble.
Mais complètement. Et du coup, Thomas Borneau va être là, va pouvoir discuter avec le public, échanger avec le public. Et il reste jusqu'à lundi. Et lundi matin, on fera une projection avec des scolaires, des lycéens. Voilà. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Et je trouve que c'est des belles initiatives aussi de la région qui propose ça.
Et puis la part des documentaires.
Ah ouais, mais c'est incroyable,
de toute façon, le cinéma de Millau laisse toujours une très belle place.
Mais là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, là, cette quinzaine. Bon, c'est comme ça, c'est des fois le hasard du calendrier.
Mais il y a quand même un documentaire que tu n'as pas programmé, c'est celui sur la mythologie des cabines téléphoniques.
Ah, mais ça se fera peut-être plus tard.
Bon, ça s'appelle Allô la France.
Allô la France,
c'est tout un programme.
Mais bon. il est pas exclu parce que, bref.
C'est un peu plus léger peut-être. Bon.
Ouais, c'est un peu plus léger. Et,
mais en même temps.
C'est le même distributeur en fait.
En même temps, je crois que ça parle justement de l'exclusion géographique. Voilà, bon, mais un beau sujet.
Oui, ça peut être intéressant. Mais c'est là, Allô la France, on verra plus tard. On verra plus tard. Parce que l'autre documentaire aussi, pour lequel on reçoit également le réalisateur, qui est Vincent Glenn, et ce documentaire s'appelle « Dis pas de bêtises ». Et alors là, c'est tout à fait intéressant parce que vous avez deux sujets en un.
Ouais.
À la fois le portrait de son papa, qui est Pierre William Glenn, et qui est un grand chef opérateur, qui a travaillé avec François Truffaut, André Téchiné, Maurice Pialat, Claude Lelouch, et même des Américains également, Samuel Fuller, Joseph Losey. Voilà, donc grand, très très reconnu, chef opérateur. Et aussi, malheureusement, ce monsieur a subi une opération au cœur qui tourne mal. Donc, son fils, le réalisateur, va devenir aidant.
Oui.
Et c'est cette relation-là, cette retrouvaille entre ce père, ce fils et les souvenirs de ce père. Voilà, vous avez... il y a tout ça là-dedans.
Un beau sujet.
Un beau sujet, oui. Un beau sujet. Donc,
ça pourra presque être un film, là, d'ailleurs.
Oui, enfin, du coup, alors ça, ça
qualité sera... du montage, là, certainement.
Ah oui, c'est ça. Ça sera le 4 avril à 18h pour venir rencontrer Vincent Glenn et parler et de cinéma et le fait d'accompagner, d'accompagner des personnes malades. Et en documentaire... vous allez avoir Soulèvement, Soulèvement et Rural.
Tiens, un documentaire.
Voilà, non, mais je m'en aperçois, effectivement, il y a une quinzaine avec pas mal de documentaires. Là.
Ouais, bon, enfin, c'est une partie de l'ADN de ta programmation.
Ouais, beaucoup, c'est vrai.
Je pense qu'on apporte beaucoup.
Moi, j'aime bien ça.
Ah. Bon, il y a d'autres, je pense qu'il y a peut-être des films qui sont peut-être documentés, mais moins documentaires.
Par contre, oui, effectivement. Il va, effectivement, on a une grande fresque qui arrive avec Les Rayons et les Ombres, dernier film de Xavier Giannoli, qui commence à bien s'imposer dans le paysage du cinéma français depuis surtout son dernier grand succès, Illusion perdue.
Ouais.
Qui était quand même une...
Un beau film.
Une adaptation de Balzac assez remarquable. Hein, ouais.
Ouais. Avec des acteurs qui ont été, je trouve, transfigurés. Moi, il y a des acteurs que je n'aimais pas trop avant. Puis là, je les ai vus dans des rôles de composition et des compositions pas faciles à assumer. Hein.
Bon. Tu penses à qui ? Vincent Lacoste, je suis sûre. Ouais, j'en étais sûre. Parce que moi...
Peut-être que tu as eu le même parcours que
voilà,
moi.
C'est ça. En fait, exactement.
Bon, je voulais pas le citer, mais bon.
Mais en fait, ça m'a fait exactement pareil. Donc, donc oui, je comprends. Et alors là, bah, c'est tiré d'une histoire vraie, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'histoire de Jean et Corinne Luchère, pris dans l'engrenage de la collaboration. Voilà, ce monsieur avait un grand ami avant la guerre, un ami allemand, et ils œuvraient tous les deux pour l'amitié franco-allemande.
La culture.
Voilà, la culture, etc. Et après, avec la guerre, il y aura ce basculement plutôt vers la collaboration.
Et cette jeune femme-là qui se trouve emportée.
Et sa fille, donc, qui était une actrice... une comédienne, et emportée aussi là-dedans. Donc, il faut vous armer de patience. Ça dure 3h15. Mais voilà, c'est 3h15 qu'on ne voit pas passer. Et c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment. Mais c'est bon, on fait beaucoup de longs films désormais.
Ben oui, hein, je ne sais pas quoi en penser.
Moi non plus.
On pourrait en faire un sujet un jour.
Je ne sais pas quoi en penser non plus.
Pierre-Emmanuel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Le souci de concision, non, la synthèse, c'est moins la force des metteurs en scène.
Alors, c'est une vraie question. À une époque, et notamment dans les années 70, il y avait une recherche de la longueur. Il y avait des cinéastes, un grec comme Théo Angelopoulos faisait assez systématiquement des films de 2h30. 3 heures peut-être. Jacques Rivette est un cinéaste c'est pas de la longueur, c'est de la durée, c'est différent. Lui, il a besoin de travailler dans la durée. Il a fait des films parfois très longs, 4 heures, mais 4 heures qui permettaient au film de trouver son équilibre d'une certaine manière. Aujourd'hui, j'avoue que alors peut-être parce que j'ai vu beaucoup de films assez longs moi-même. J'ai un peu plus de mal à affronter
la longueur.
Ou alors il faut vraiment, si je puis dire, que ça en vaille la peine, qu'il y ait une découverte très forte, et tout simplement que la longueur ne se voit pas, ne se ressente pas.
Bientôt, mais c'est vrai que on fera des pauses, comme le brutaliste.
Je m'interroge, ouais, effectivement, sur la recherche, la volonté de faire long. De la part des cinéastes aujourd'hui. Est-ce que c'est... D'autant que ça pose aussi des questions par rapport à l'exploitation. La longueur d'un film a toujours posé des questions...
Ah, mais ça pose de gros problèmes.
Qu'est-ce que tu mets séances. Après ? Est-ce que tu arrives à mettre un deuxième
mais
film ?
Mais absolument pas.
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire qu'un film comme ça, ça prend 2 séances. Voilà, ça c'est sûr.
Raison de plus.
Ça limite forcément le nombre de films après que l'on passe cette semaine-là. Enfin, bien sûr, ça c'est un problème.
Après, on peut dire que chaque film a sa durée intrinsèque, sa propre respiration.
Si c'est une volonté.
Voilà, la question est de savoir si la durée du film est une sorte de postulat de départ ou si elle se trouve en chemin.
Voilà. Bon. Mais c'est vrai que ça pose... Moi aussi, ça me pose question.
Vous pensez que le film de la quinzaine lusophone, il est long aussi, le premier film ? Je me posais la question. J'ai trouvé ça comme façon d'en parler, mais je n'ai pas la durée. Hein, bon.
Tu veux la durée ?
Je parle de Grand Tour, hein, à pas oublier. Bon. Mais donc... on va voir si Miguel Gomez... que Pierre-Emmanuel connaît un petit peu, je crois, s'il est adepte de ça ou...
Oui, c'est un jeune... c'est un jeune. C'est un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant. Il est apparu, je crois, surtout au début des... moitié des années 2000, avec notamment ce « Cher mois d'août », qui est le long-métrage qu'il a révélé. Il fait partie des cinéastes, mais de cette génération, avec aussi Albert Serra et quelques autres. Moi, j'ai un très bon souvenir de Tabou, notamment.
Qui est
un très beau film. Deux heures. C'est très, très raisonnable. Et,
ça va paraître
qui
court.
qui est un film... j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui puise beaucoup dans la... Dans les, d'une certaine manière, dans les contes, dans une forme de vision légendaire, de narration légendaire autour de son pays. C'est le cas aussi, d'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle « Les mille et une nuits », mais qui est une sorte de transposition du Portugal des années 2010, transposition plutôt d'une approche de la narration type « Mille et une nuits » dans le Portugal des années 2010. Donc j'ai l'impression qu'il aime bien mêler d'une certaine manière des manières de raconter, une approche... assez moderne de la narration avec son époque contemporaine.
Le pitch de Grand Tour, il est assez, il est assez amusant, moi, je trouve, parce que donc on est au début du XXe siècle, ça, je pense que c'est important parce que là, se promener, voyager n'est pas aussi facile. Un fonctionnaire colonial décide à la dernière minute de fuir avant que sa fiancée n'arrive pour l'épouser en Birmanie. C'est assez moderne comme contexte. En général, c'est l'inverse. Il entame alors un périple à travers la Birmanie, la Thaïlande, Singapour, le Vietnam, les Philippines, la Chine et le Japon. Donc là, je pense qu'il veut nous dire quelque chose. Je n'ai pas encore trouvé, il faut voir le film. Mais ça a l'air vraiment... Enfin, on va voir la façon dont il le filme. Ça a l'air vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Puis alors, en plus, il va être suivi par un verre de l'amitié.
Oui.
Donc là, je pense qu'on va avoir du vino verde.
Et puis, à chaque fois, il y a des petites spécialités portugaises. super, super découverte.
On a d'autres films à proposer.
Je voulais juste attirer l'attention sur... un film qui, malheureusement, ne trouve pas tout à fait son public pour l'instant. Mais bon, ça, il vient de démarrer. C'est Projet Dernière Chance. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est un gros film américain que je vous propose de venir voir. Mais avec Ryan Gosling. Mais parce que je trouve que ça fait du bien de temps en temps de se laisser faire comme un enfant, en fait, et de regarder ce genre de film. C'est un très bon film familial. Et là, on suit un scientifique qui se réveille dans une espèce de vaisseau spatial, et il sait pas trop pourquoi il est là. C'est un petit prof à la base, et puis
un spécialiste,
particulier. Oui. Et puis d'un seul coup, il se souvient et il est là pour sauver
le monde
évidemment,
étoiles,
parce que le soleil est en train de s'éteindre.
Ouais.
Et là, il va faire une rencontre, il y a une espèce d'histoire d'amitié improbable. On est presque du côté de E.T. aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un beau film familial.
C'est l'amitié, l'amitié entre ces rencontres de troisième type.
Un peu, on a
c'est un alien qui aurait eu un traitement psychiatrique.
On a un peu tout ça.
Pour être moins agressif.
Donc voilà. Et puis peut-être un petit coup de projecteur sur Victor comme tout le monde. Victor Hugo et Fabrice Luchini, ensemble. Être un bon divertissement.
Et sa fille, la fille de Victor Hugo, je crois.
La fille de Fabrice Luchini, surtout.
Oui, mais de Victor Hugo. Non.
Non.
Il n'y a pas des lectures de...
Ah, mais de toute façon, il lit Fabrice.
Sur ce qu'il a pu écrire.
Fabrice lit Hugo depuis longtemps.
Bon, c'est vraiment tout un programme.
Voilà.
Je sais pas. Pierre-Emmanuel, tu voulais pas parler d'un metteur en scène, non?
De Bonitzer.
De Pascal Bonitzer.
Ah,
justement, le réalisateur de. De Victor comme
de
tout
Victor.
Le monde.
Ouais.
On peut dire au passage que Victor Hugo est doublement présent puisque Les rayons et les ombres, c'est aussi le titre d'un recueil de Victor Hugo.
C'est vrai.
Et non, simplement préciser que Pascal Bonitzer, c'est quelqu'un qui a un parcours assez intéressant, très vivant, je trouve, parce qu'il a commencé au Cahier du cinéma et c'est un des grands théoriciens, notamment sur le hors-champ. Un des grands théoriciens du cinéma dans les années 70. Il a ensuite été scénariste, notamment pour Téchiné et pour Jacques Rivette, avec des manières de travailler très différentes. Téchiné en écrivant auparavant, et Jacques Rivette en écrivant le jour même du tournage. Donc, différentes pratiques du scénario. Et en fait, en tant que cinéaste, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très attiré par le jeu, en fait. À la fois le jeu des comédiens, mais les jeux même à l'intérieur du scénario. Il a fait Le Grand Alibi, par exemple, qui est une sorte de jeu, enquête, entre guillemets, de petite enquête. Mais il est très attiré par cet aspect de jeu. Et c'est un peu une des bases de la construction de ces films.
Bon, ben on va,
merci.
Ça nous donne aussi envie d'y aller le voir.
Oui, je pense que c'est un petit moment agréable. Si on aime Fabrice Lucchini, si on aime poésie, la littérature.
Une belle quinzaine de cinéma, en tout
mais
cas.
Mais bien sûr.
Là, j'en suis sûr. Bah, on va vous quitter, alors.
Hein. Bah, ce fut un plaisir.
On vous dit à dans 15 jours.
Hein. Avec plaisir.
Et puis en attendant, bah, on va se croiser au cinéma. Et puis je voulais vous dire que l'émission, maintenant, je crois qu'on peut... Il y a un QR code qui permet d'accéder à notre émission, qui sera peut-être disponible dans le cinéma, hein, pour vous donner des idées, bon, en complément bien sûr de tout ce que Muriel peut faire sur la programmation et la publicité qu'elle donne à ce travail. Au revoir, bonne journée.
Merci.
Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt.